Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'Évangile, nous contemplons le Seigneur au milieu d'un de ces beaux panoramas de la Terre Sainte, le lac de Tibériade, et le Seigneur qui gravit la montagne s'assoit pour enseigner les foules de sa parole. Bonne nouvelle qui vient manifester la proximité de Dieu, sa miséricorde, à l'endroit des pécheurs et des pécheurs que nous sommes, à l'endroit des malades, des possédés, de tous ceux qui sont affamés de Dieu. Nous sommes dans le peuple élu d'Israël. Nous attendons depuis le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, que Dieu envoie enfin le Sauveur, le Libérateur d'Israël, le Sauveur du genre humain. Et à travers les révélations que le bon Dieu accorda aux prophètes, un cahier des charges assez précis s'était mis en place pour que l'on puisse reconnaître le Messie de Dieu lorsqu'il viendrait enfin visiter cette terre et inaugurer son règne de paix. Il devrait rendre la vue aux aveugles, redonner la mobilité aux paralysés, faire entendre les sourds, mais aussi donner à manger à son peuple. Dans l'Évangile selon saint Jean, il y a un mot que l'apôtre n'affectionne guère et qu'il n'emploie jamais, celui de miracle. Dans l'Évangile de Jean, jamais Jésus n'accomplit un miracle. Il opère des signes. Parce que en rester au miracle et au miraculeux n'est pas suffisant. Il faut se poser la question de comment ce miracle est-il possible, ou plutôt, question que l'on retrouve en chaque évangile, mais qui est-il donc? Mais qui est-il donc pour que le vent, la mer lui obéissent, s'interrogent les apôtres dans la barque, alors que la tempête fait rage. Mais qui est-il donc celui-ci pour opérer un exorcisme avec tant d'autorité? Il n'a même pas besoin de prier, comme le faisait par exemple le grand prophète Élie. Il ordonne et cela se passe, le démon s'en va. Qui est-il donc pour que même le démon lui obéisse? Le ciel, le vent. Qui est-il donc pour rendre la vue même à un aveugle de naissance? Cela ne s'était jamais vu. La question essentielle n'est pas celle du miracle, mais de l'auteur du miracle. Voilà pourquoi saint Jean parle de signes, parce que les miracles sont autant de signes qui sont à interpréter et qui convoquent notre foi. Avec l'apôtre Pierre, nous répondons dans l'Évangile selon saint Matthieu, c'est la question que l'apôtre a placée au centre de son Évangile, « Pour vous, qui suis-je ?» Et saint Pierre, qui répond au nom de l'Église, en notre nom à tous, commence par confesser que le Seigneur est le Messie. Vous êtes le Christ. Mais la profession de l'apôtre Pierre va beaucoup plus loin que la seule espérance d'Israël. Vous êtes le Christ. Le Christ en grec, le Messie en hébreu. Vous êtes le Fils du Dieu vivant. Voilà le Dieu vivant à l'œuvre qui vient rendre la vue aux aveugles. Et si le Seigneur a rendu la vue à tel aveugle, c'est parce que nous vivons sous le régime de la foi sans voir encore ce que nous verrons au ciel dans la plénitude de la vérité. Si le Seigneur fait entendre les sourds, c'est parce que bien souvent nos cœurs sont enfermés et que le Seigneur veut nous faire entendre la bonne nouvelle dans sa profondeur, dans sa vérité. C'est la mission d'ailleurs de Dieu le Saint-Esprit que de nous conduire vers la vérité tout entière qui n'est autre que le Christ. Si le Seigneur rend la mobilité aux paralysés, à tel paralysé, lève-toi, prends ton brancard et marche. C'est parce que nous sommes bien souvent paralysés par le mal, paralysés par la paresse, le manque d'audace et le « qu'en dira-t-on ? » Et le Seigneur nous invite à agir en vérité comme lui s'est saisi de la croix sans ouvrir la bouche, nous dira Isaïe dans sa prophétie où il entrevoit le mystère sanglant mais ô combien glorieux de la passion du Seigneur. Il ne ressemblait même plus à un homme, homme de douleur et de souffrance. Et saint Pierre de reconnaître un peu tard, mais dans son épître, c'était nos péchés qu'il portait sur le bois de la croix. Le Seigneur opère donc des miracles qui sont autant de signes qui convoquent la question essentielle, celle de la foi. Pour être sauvés, il nous faut placer notre foi dans le Christ. La foi, en latin « fides », signifie la confiance. Nous devons placer notre confiance en Dieu. Et cette confiance n'est pas seulement théorique, elle appelle aussi une profession de foi pratique. Nous devons non seulement croire en Dieu, mais croire qu'il est provident, que Dieu, dans la confiance que nous plaçons en lui, pourvoit à chacun de nos besoins. Et le Seigneur de nous inviter à ordonner notre vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné en surcroît. Nous pourrions penser tout d'abord qu'il nous faut manger, qu'il nous faut boire, qu'il nous faut nous vêtir, qu'il nous faut trouver un emploi, qu'il nous faut fonder une famille et qu'ensuite nous nous poserions la question éventuelle de Dieu. Le Seigneur nous invite à placer notre foi en lui, toute notre confiance en lui. Il nous faut d'abord rechercher le bon Dieu, d'abord rechercher le règne de Dieu, son royaume d'amour et de paix, et tout alors prendra sens. Tout sera parfaitement ordonné pour que de cette terre nous puissions prétendre à la splendeur du ciel et de son royaume où le bon Dieu nous convie. S'il nous faut croire et vivre de la providence de Dieu, c'est ce que le Seigneur Jésus va accomplir dans ce dernier signe qui permet de le reconnaître comme le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, celui qui a reçu de Dieu le Père l'onction pour venir en son nom nous sauver. Et il ne vient pas seulement en son nom, le nom dans la tradition biblique, c'est l'être même de Dieu, c'est Dieu lui-même qui, à travers son Fils, vient nous sauver. Pour manifester cette providence à cette foule immense qui en a oublié de manger et de boire tellement elle était suspendue aux lèvres du Verbe de vie, on dit dans l'Évangile, aucun homme n'a jamais parlé comme celui-là. Ou encore, c'est l'apôtre Pierre de dire, « Mais Seigneur, vers qui irions-nous ? » Vous avez les paroles de la vie éternelle. Et ils ont vu un certain nombre de miracles, ils ont vu un certain nombre de signes qui leur manifestent que Jésus est la résurrection et la vie, que Jésus est le bon berger, qu'il est la porte du ciel. Et voilà que pour manifester cette providence, il va interroger l'apôtre Philippe devant cette foule innombrable. Il faudrait leur donner à manger. Où pourrions-nous acheter du pain ? Et l'évangéliste saint Jean de préciser qu'il mettait en cela à l'épreuve Philippe, son apôtre. Le salaire de 200 journées de travail ne suffirait pas à leur donner un peu de pain. Et voilà que le Seigneur veut manifester qu'il est provident et que ceux qui placent en lui sa foi ne seront pas déçus. Voilà, sans grand geste particulier, que le Seigneur Jésus invite les apôtres à l'acte de foi, à prendre les pains, à les distribuer, et voilà que l'abondance du règne de Dieu est manifestée. Non seulement tout le monde a mangé du pain et du poisson à partir de ce que ce jeune garçon trimballait dans son panier, mais en plus, il en est resté. Le psaume nous le dit, « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Non seulement nous plaçons en lui notre foi, mais parce qu'il est provident, nous savons que la confiance que nous plaçons en lui ne sera pas déçue. et que même si nous traversons avec lui les épreuves, la croix qui ne manque jamais de se présenter dans la vie chrétienne, nous portons cette croix avec le Seigneur Jésus. Nous le suivons à travers les épreuves, car nous savons dans cette bonté que Dieu ne permettrait l'épreuve et ne la permet qu'en vue d'un bien plus grand. Le Seigneur Jésus, qui a offert sa vie sur le bois de la croix, a offert cette épreuve en vue d'un bien plus grand. Et nous sommes le bien plus grand du Seigneur, puisqu'il nous a sauvés par le sacrifice de sa vie. « Je suis venu, nous dit-il, pour que vous ayez la vie, mais la vie en abondance. » C'est bien l'abondance que nous contemplons dans cet évangile qui vient de la part du Seigneur, cette abondance qui nourrit les foules. Et au cœur de la prière que le Seigneur dépose sur nos lèvres, le Pater Noster, il y a cette demande, la demande centrale, la quatrième, nous dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Nous demandons au Seigneur qui est provident le pain nécessaire à la vie de notre corps, bien sûr. Et nous avons raison de rendre grâce en chacun de nos repas pour la nourriture qui nous vient par le travail des hommes, du bon Dieu. Mais l'homme ne vit pas seulement de pain, nous dit le Seigneur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous nourrissons nos corps, il faut nourrir nos âmes. Donnez-nous aujourd'hui notre Père qui es aux cieux, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous demandons que le Seigneur descende dans le pain, que le pain devienne consacré par sa présence, car il l'affirme dans l'Évangile. « Je suis le pain vivant, descendu du ciel, qui mange ma chair et boit mon sang. Celui-là vivra pour toujours. » Nous demandons le pain de ce jour, du jour qui passe, certes, mais surtout du jour de Dieu, de cette éternité divine qui est promise non pas à nos corps, mais à notre âme qui, elle, éternelle, est appelée, eh bien, à ressusciter au dernier jour jusque dans sa chair. Alors nous rendons grâce au bon Dieu, parce que nous plaçons notre foi, notre confiance en lui et qu'elle n'est pas déçue. Nous rendons grâce également parce qu'avec le bon Dieu, nous reconnaissons qu'il est provident, qu'il pourvoit à nos besoins. Et nous sommes dans l'action de grâce, comme en chacune de nos saintes messes, parce qu'il nous communique par sa grâce cette vie en abondance et anticipe alors, aujourd'hui, maintenant, l'éternité divine qui nous attend. Puisse la bienheureuse Vierge Marie, celle qui, en notre sanctuaire de Garaison, non loin d'ici, à multiplier les pains en temps de famine pour la jeune Anglaise de Sagazan et les habitants du Magnoac, nous aider nous aussi à toujours rendre grâce à Dieu pour ses dons et ses bienfaits. Ainsi soit-il.